Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Protégez-vous et to go! Au programme, de beau matin. Comment planifier sa succession numérique et 6 façons de développer sa résilience. Bonne écoute!
De beau matin. Que vous cherchiez une cafetière à espresso manuel ou automatique, découvrez celles qui produisent un bon café tout en étant facile à réparer. Un texte de Capucine Cloutier, paru en janvier 2023 dans le magazine Protégez-vous. Il n'y a rien de mieux qu'un bon café pour commencer la journée. Pour pouvoir l'apprécier, il faut toutefois trouver un appareil qui permet d'obtenir un café bien équilibré, aux arômes agréables et à la mousse créma, onctueuse. Nous avons mis à l'épreuve 34 modèles, dont 21 cafetières manuelles et 13 automatiques. 5 baristas et torréfacteurs ont goûté à l'aveugle les cafés produits par chacune des machines. Nous avons également évalué divers aspects techniques des cafetières, comme leur ergonomie, leur rapidité, le bruit qu'elles produisent ainsi que la facilité à nettoyer leurs composantes. Au-delà de la performance, vous cherchez certainement un appareil fiable et facile à réparer. Nous avons donc sondé quelques 3000 répondants issus du panel, la communauté de consommateurs de Protégez-vous, afin d'identifier les marques les plus fiables et les bris les plus fréquents. Un groupe de 5 réparateurs nous a également aidés à évaluer la réparabilité des cafetières, de même que les coûts associés. Conclusion, les bris sont assez fréquents, mais il y a moyen de remettre ces appareils en état, à condition d'y mettre le prix. La dépense peut être justifiée si vous êtes satisfait de votre cafetière et que vous désirez la garder longtemps. Pour ce test, Recyc Québec a collaboré à l'élaboration de la cote de réparabilité de Protégez-vous, destinée à contrer l'obsolescence et à favoriser le prolongement de la durée de vie des produits, notamment par la réparation. Vous trouverez les évaluations de toutes les cafetières testées en ligne. pv.ca/cafetière. Manuel ou automatique? Une cafetière manuelle vous permet de contrôler plusieurs paramètres, dont la force de compression et le temps d'extraction du café. Vous pouvez ainsi produire des espressos qui répondent au goût de chacun. Cela exige toutefois une série de manipulations. Remplir le filtre, compresser le café, etc. Mais surtout une bonne connaissance de la machine. Il est important de prendre le temps de tester plusieurs combinaisons de café, mouture, temps d'extraction et force de compression avant d'obtenir le café parfait. Les cafetières manuelles sont en général moins chères que leurs cousines automatiques. Si vous préférez la simplicité, optez pour un appareil automatique qui calcule lui-même la quantité de grains requise pour chaque tasse, les moûts, compresse le café et fait couler ce dernier selon le volume d'eau désiré ou préprogrammé. Ces machines font aussi elles-mêmes des cycles de rinçage et de nettoyage. Les cafetières automatiques produisent plus rapidement les cafés que les modèles manuels. Cependant, la facilité et la rapidité ont un prix. Les meilleures cafetières automatiques se vendent entre 1 200 et 2 395 $. Seul un de nos bons choix affiche un prix sous la barre des 1 000. Les dimensions de l'appareil. Les machines à espresso sont généralement volumineuses, en particulier les modèles automatiques. Ainsi, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace sur votre comptoir et de dégagement sous l'armoire, si nécessaire, pour remplir les réservoirs d'eau, de grains et de lait. Le réservoir d'eau. Si vous placez la cafetière sous les armoires, privilégiez un modèle équipé d'un grand réservoir pour faire plusieurs cafés sans avoir à le remplir. Les réservoirs des appareils testés ont une capacité qui varie entre 1 et 3 litres. Certaines machines pourraient donc produire environ une trentaine d'espressos, alors que d'autres pourraient en faire près de 100. Les cafetières dotées d'un réservoir d'eau situé à l'avant ou sur le côté sont plus pratiques que celles qui ont un réservoir qu'il faut enlever et replacer par le haut. 4 de nos recommandations possèdent un réservoir se trouvant à l'avant. Le moulin intégré. Toutes les cafetières automatiques sont munies d'un moulin intégré. Du côté des machines manuelles, c'est plus rare. Les modèles que nous avons évalués offrent de 5 à 16 options de mouture. Le mousseur ou la buse. Si vous êtes un adepte de latte ou de cappuccino, procurez-vous un appareil doté d'un mousseur capable de produire une mousse généreuse, à bulles fines et aérées. Il existe plusieurs systèmes. Buse traditionnelle sous laquelle vous placez une tasse à lait, ou encore mousseur automatique à tube ou avec contenant. Avec un mousseur automatique qui comprend un contenant, il vous suffit de remplir le réservoir à lait. La cafetière mousse ce dernier et assemble les cafés elle-même. Parmi nos recommandations, les laits moussés par les cafetières automatiques ont été moins appréciés de nos dégustateurs que ceux des appareils manuels. En choisissant une cafetière manuelle, vous pourriez mieux contrôler le moussage du lait. Vous écoutez présentement « De beau matin », que vous cherchiez une cafetière à espresso manuelle ou automatique, découvrez celles qui produisent un bon café tout en étant facile à réparer. Un texte de Capucine Cloutier, paru en janvier 2023 dans le magazine « Protégez-vous ». Les porte-filtres pressurisés. Pour obtenir un délicieux espresso avec une belle créma, vous devez respecter certaines étapes, comme choisir la bonne mouture, bien doser le café dans le porte-filtre et le compresser adéquatement. Si vous en êtes à vos premières armes comme barista, un porte-filtre pressurisé deviendra probablement votre meilleur allié, car il permet de corriger toute erreur dans le dosage ou la compression du café, ou dans la finesse de sa mouture en créant une forte pression. 4 de nos recommandations viennent avec des porte-filtres pressurisés. La rapidité et le système de chauffe. Le temps moyen pour faire couler 2 cafés consécutifs varie énormément d'une cafetière à l'autre. Il va d'environ 1 minute et demie à près de 5 minutes, ce qui comprend le temps de préchauffage. La rapidité de l'appareil dépend en partie de son système de chauffe. En général, les cafetières, automatiques comme manuelles, destinées à un usage domestique sont dotées d'un système thermobloc ou thermocoil qui chauffe l'eau sur demande et rapidement. Certaines des cafetières manuelles évaluées possèdent pour leur part une bouilloire qui peut chauffer un plus grand volume d'eau. Ces systèmes prennent du temps à chauffer, mais ils offrent une meilleure stabilité de température que les thermoblocs et thermocoils. Les appareils qui comprennent une bouilloire sont généralement plus chers, mais les bris sont moins fréquents, selon les experts consultés. Parmi nos recommandations, la Gaggia Classic Pro, les 2 Lelite et la Rancilio sont dotées d'une bouilloire. Fiable et réparable. Notre sondage de fiabilité montre que les cafetières à espresso brisent assez souvent, notamment en raison de la complexité de leur mécanisme interne et de leur utilisation régulière. En effet, les cafetières manuelles ont un taux de fiabilité moyen de 68% et les automatiques de 60%. Heureusement, la plupart des cafetières sont facilement réparables. Si la cote de réparabilité diffère d'un modèle à l'autre, c'est surtout en raison du coût de réparation et de la facilité à trouver un réparateur qui connaît le produit. Cette année, nous avons réévalué le coût des réparations et, sans surprise, les prix ont augmenté, particulièrement pour des réparations de moulins. Notre panel était composé de réparateurs d'Ital Café, de Service Café, de Café Express, de la machine à café et d'un autre commerce qui souhaite garder sa participation anonyme. Cette année aussi, certains de nos réparateurs nous ont indiqué qu'ils n'avaient plus accès aux pièces de Breville. Le fabricant offre tout de même un service de réparation, plus cher selon les réparateurs, par le biais d'un de ses centres de service à Toronto ou à Calgary. Les fuites d'eau sont assez fréquentes et peuvent être causées par plusieurs éléments abîmés ou brisés. Joints défectueux, embouts de valve brisés, tuyaux percés, etc. Lorsque les joints d'étanchéité sont en cause, cette réparation coûte en moyenne 70 $ pour une cafetière manuelle et environ une centaine de dollars pour une automatique. Vous devrez débourser en moyenne 130 $ pour faire changer la pompe défectueuse ou brisée de votre appareil. Notez que les pompes des cafetières Jura font rarement défaut. Réparer un moulin brisé vous coûtera environ 170 $, mais pour certains produits, les prix peuvent s'élever jusqu'à plus de 600 $. Les moulins des appareils Jura coûtent nettement plus cher que ceux des autres marques. Selon notre panel de réparateurs, il arrive que les gens qui utilisent du café très gras pensent que leur moulin est brisé, alors que ce dernier ne nécessite qu'un bon nettoyage. Si vous égarez ou brisez votre porte-filtre, vous pourrez généralement en racheter un chez un réparateur ou chez le fabricant, à un prix variant entre 10 et 60 $. Pour un même modèle, les prix varient beaucoup d'un endroit à l'autre. N'hésitez donc pas à magasiner un peu. Les cafetières de marque Jura coûtent cher à faire réparer, peu importe le bris en question, et elles présentent un taux de fiabilité assez moyen de 57%. Malgré tout, cela n'empêche pas les utilisateurs d'être très satisfaits de cette marque, en partie parce que la performance de ces appareils est excellente. En effet, 90% des gens recommanderaient ce nom. Par ailleurs, l'appréciation des cafetières de Longhi varie puisque leurs performances sont assez inégales, ce que les réparateurs nous ont confirmé. Assurez-vous donc de choisir un modèle faisant partie de nos recommandations. C'était « De beau matin, que vous cherchiez une cafetière à espresso manuel ou automatique, découvrez celles qui produisent un bon café tout en étant facile à réparer ». Un texte de Capucine Cloutier, paru en janvier 2023 dans le magazine Protégez-vous.
Comment planifier sa succession numérique? Un texte de Maxime Johnson, publié dans le numéro de janvier 2023 de la revue Protégez-vous. Livres électroniques, photos, courriels, avoir en crypto-monnaie, voici la marche à suivre pour vous assurer que votre liquidateur testamentaire aura accès à vos biens numériques à la fin de vos jours. Vos avoirs ne se résument plus qu'aux objets dans votre maison et à vos placements dans différentes institutions financières. Vous avez aussi de plus en plus de biens numériques. Si vous n'avez pas prévu le coup, les clichés dans votre ordinateur ou dans un service de sauvegarde en ligne comme Google Photos ne seront toutefois pas aussi faciles à léguer que ceux contenus dans un album physique. Parfois, ce sera même impossible. Dans le cas de certains avoirs en crypto-monnaie, par exemple, personne ne pourra profiter de l'argent que vous avez accumulé si votre mot de passe disparaît avec vous. Heureusement, vous pouvez planifier votre succession numérique en profitant des différents outils mis à votre disposition. Facebook, par exemple, permet de désigner un contact légataire parmi vos amis qui pourra contrôler en partie votre compte à votre décès, notamment pour communiquer des informations sur une célébration commémorative ou encore changer votre photo de profil. Pour les sites qui n'offrent pas une telle option, certains gestionnaires de mots de passe peuvent vous permettre de planifier une transition en douceur en transférant tous vos identifiants à un contact. Voici la marche à suivre pour assurer le transfert de vos avoirs numériques. Désignez un liquidateur numérique. En plus de choisir un liquidateur testamentaire, vous devriez penser à quelqu'un pour s'occuper de vos biens numériques, qui peut être une personne autre que le liquidateur. optez pour une personne douée en informatique pour cette tâche. Inscrivez votre choix dans votre testament, surtout si vous accordez de l'importance à ces avoirs. Remplissez la section « Actifs virtuels » du formulaire « Patrimoine », votre guide 360. La section « Actifs virtuels » du formulaire « Patrimoine », votre guide 360, créée par la Chambre des notaires du Québec, est un bon outil pour dresser la liste de vos avoirs numériques. Le formulaire vous permet, par exemple, d'inscrire vos appareils informatiques et d'indiquer les données importantes qui s'y trouvent et ce qui doit en être fait. Les principaux services web, photos, musique, livres électroniques et les services financiers en ligne, comme un compte PayPal, peuvent également y être énumérés. Le formulaire, que vous devrez mettre à jour périodiquement et conserver avec vos papiers importants, deviendra le plan d'action de votre liquidateur numérique. Notez qu'il contient une annexe optionnelle où inscrire les mots de passe permettant d'accéder à vos comptes. Si vous l'utilisez, cette annexe devra être rangée dans un endroit sécurisé, comme un coffre-fort. Malheureusement, la fréquence à laquelle les mots de passe doivent être modifiés et ajoutés rend cette option plus ou moins pratique, surtout à long terme. Ajoutez votre liquidateur numérique à votre gestionnaire de mots de passe. Certains gestionnaires de mots de passe, comme LastPass, Keeper et Dashlane, vous permettent de nommer un contact qui pourra accéder à vos identifiants à votre mort. Contrairement à un formulaire papier qu'on ne remplit trop souvent qu'une seule fois, ce gestionnaire devrait en théorie être à jour puisque vous l'utilisez quotidiennement pour accéder à vos comptes. La marche à suivre varie d'un gestionnaire à l'autre. Avec LastPass, par exemple, cliquez sur l'option « Accès d'urgence » dans le menu principal, puis sur « Autoriser l'accès d'urgence ». Entrez l'adresse courriel de votre liquidateur numérique, qui devra se créer un compte LastPass, si ce n'est déjà fait, puis indiquez un temps d'attente. Ce temps, d'immédiatement à 30 jours, vous donnera l'occasion d'annuler une demande d'accès si celle-ci est faite de votre vivant. Généralement, un gestionnaire de mots de passe professionnel contient également un espace où enregistrer des notes. Utilisez cet endroit pour indiquer les comptes que vous souhaitez aussi partager avec votre liquidateur numérique, mais qui ne sont pas des sites web, comme les mots de passe pour accéder à vos œuvres d'art numériques, comme les NFT. Vous pouvez aussi inscrire à cet endroit les codes servant à déverrouiller votre ordinateur et votre téléphone intelligent, qui seront essentiels pour que votre liquidateur puisse accéder à vos comptes si vous avez activé l'authentification à deux facteurs dans ces derniers. Attention toutefois, l'accès d'urgence est une fonctionnalité payante, du moins avec LastPass et Keeper. Si vous arrêtez de payer pour le service un jour, votre liquidateur numérique perdra ses accès. La fonctionnalité est gratuite avec Dashlane, mais elle est plus compliquée puisqu'elle exige d'effectuer des copies de sauvegarde des renseignements, ce que vous devrez refaire dès que vous ajoutez ou changez des mots de passe. Une autre option consiste à inscrire les identifiants de votre gestionnaire de mots de passe dans votre testament ou dans un endroit sécurisé auquel votre liquidateur aura accès. Vous devrez toutefois mettre ces renseignements à jour si vous changez de gestionnaire ou si vous modifiez son mot de passe. Profitez des outils de succession officielle. Les principaux sites web et fournisseurs de services électroniques offrent des fonctionnalités liées à la succession. Les contacts légataires désignés avec ces outils officiels pourront généralement accéder à la plupart de vos données, mais pas à toutes. Facebook, par exemple, ne leur permet pas de lire vos messages personnels. Consultez vos paramètres de compte Apple, Facebook et Google pour ajouter un contact légataire. Notez que si vous avez ajouté un liquidateur numérique à votre gestionnaire de mots de passe, il n'est pas nécessaire de le désigner en plus comme contact légataire dans vos différents comptes en ligne. Consultez un professionnel. Suivre les étapes ci-dessus devrait vous assurer que tous vos biens numériques pourront être gérés après votre mort sans que votre liquidateur ait à perdre des mois à remplir des formulaires et à se casser la tête pour déterminer ce qui doit être fait de vos différents comptes en ligne. Pour plus de sécurité, rencontrez tout de même un notaire pour vous assurer que votre plan de succession numérique tient la route et que vous n'avez rien oublié. Cette étape est particulièrement importante si vous avez des avoirs financiers importants, notamment en crypto-monnaie. C'était « Comment planifier sa succession numérique », un texte de Maxime Johnson, paru dans le numéro de janvier 2023 de la revue Protégez-vous. Six façons de développer sa résilience. Un texte de Nathalie Parent paru le 29 novembre 2022 dans Tout Go. La vie est imprévisible. Parfois, on pense savoir ce qu'on fait et où on va, et soudain, la vie décide de nous faire prendre un chemin de traverse. Notre partenaire nous quitte sans préavis. On fait face à un licenciement au travail ou à un refus de notre demande de formation. Comment faire de ces difficultés un tremplin? Qu'une porte se ferme dans notre vie amoureuse, familiale ou professionnelle, c'est toujours difficile à accepter et à vivre. Mais une chose est sûre, qu'on soit au top dans notre domaine ou qu'on ait une vie de famille idéale, on fera inévitablement face à la déception à un moment ou à un autre. Cette déception ou cet échec est souvent ce qui amorce le changement et le progrès. On n'a qu'à penser à l'enfant qui apprend à marcher. Chaque chute lui permet de mieux maîtriser son équilibre et de progresser. Il est impossible d'être au top en tout temps, comme personne, parent ou proche, au travail, en affaires, en amitié, etc. On rencontrera des obstacles à un moment donné qui peuvent nous amener à baisser les bras. C'est humain. Il s'agit de se relever, de s'épousseter et de continuer quand on tombe. Voici six conseils pour développer sa résilience face aux difficultés. 1. Arrêtez de croire qu'on est la seule personne à ne pas avoir réussi. On doit se débarrasser de l'idée qu'on est la seule personne au monde à avoir raté son coup dans la création d'une entreprise, à avoir de la difficulté avec la prise en charge de nos parents ou dans notre vie amoureuse, à manquer son coup dans la confection d'un gâteau, à procrastiner dans notre remise en forme, etc. Des millions de personnes, chaque jour, vivent des échecs. En fait, en lisant la biographie de n'importe quelle personnalité qui a réussi, il est pas mal certain qu'on trouvera des échecs ou des difficultés dans son parcours. Avant d'être élu président des États-Unis en 1860, Abraham Lincoln a perdu 8 élections, fait 2 faillites et une grave dépression. Mais il n'a jamais abandonné. Tout le monde fait des erreurs ou voit la malchance s'abattre sur lui. Le chemin de la réussite et du bonheur n'est pas en ligne droite et tracé d'avance. Il peut être long, sinueux et chaotique. Les accidents et les sorties de route font partie du voyage. 2. Accepter la situation et nos émotions. Il est normal, après un coup dur, de ressentir de la déception, de la tristesse, de la colère et une baisse de confiance en soi pendant un moment. Se laisser la place nécessaire pour vivre ces émotions nous permettra de les accepter plus rapidement et de voir la situation comme un défi plutôt que comme une fin de non-recevoir. Après tout, l'échec ou le coup dur concerne un événement précis, pas l'entièreté de notre personne. Quand on essaie quelque chose de nouveau, il est normal qu'on ne soit pas au top au début. On est en apprentissage. Cela ne signifie pas qu'on n'a pas le potentiel pour y parvenir, mais qu'on doit continuer à travailler. Ou ne pas s'obstiner si on s'aperçoit que la chose ne nous convient pas. Pensons aux athlètes ou aux personnalités qu'on admire. La plupart avaient sans doute de grandes compétences à leur naissance, mais la raison pour laquelle ces personnes sont rendues là où elles sont tient davantage à leur travail acharné et aux obstacles qu'elles ont surmontés en cours de route. 3. Analyser les causes d'un échec. Une des meilleures façons de vivre un échec de façon constructive est de réfléchir à notre situation. On peut se poser les questions suivantes. Où ai-je fait fausse route? Quels facteurs n'ai-je pas pris en compte? Y a-t-il des aspects qui se sont bien déroulés? Sur quoi avais-je le contrôle? Avais-je assez de motivation? Est-ce que j'avais le bon profil pour ce poste? Est-ce que cette activité, cette relation ou cet emploi me convient vraiment? L'objectif était-il trop élevé? Qu'est-ce que cela m'apprend de moi? Qu'est-ce que j'apprends de cette expérience? Que ferais-je autrement si c'était à refaire? Prendre du recul et essayer d'avoir une vue d'ensemble aide toujours à mettre le doigt sur ce qui a empêché l'atteinte du résultat souhaité et nous permet d'éviter de refaire les mêmes erreurs. 4. Identifier des stratégies pour l'avenir. On met ensuite en place des moyens concrets de favoriser l'atteinte de nos objectifs. On peut, par exemple, revoir notre emploi du temps, miser sur de nouvelles habitudes de vie, redéfinir nos priorités, se fixer de plus petits objectifs. Quand on porte notre attention sur ce qu'on fera ensuite, on apprend à moins se soucier du passé. Cela nous aide à considérer les erreurs comme des apprentissages plutôt que comme des obstacles à notre développement. 5. En parler à quelqu'un. Quand on se retrouve dans une position difficile, il est humain de vouloir s'isoler. On peut avoir honte, être dans l'embarras, on peut même vivre de la frustration. Cependant, la chose la plus importante à faire dans cette situation est d'aller vers une personne en qui on a confiance. Cette personne pourra nous rappeler nos points forts, nos qualités, nos succès, notre potentiel. Ce petit boost de confiance en soi nous permettra d'aller de l'avant. 6. S'ouvrir à de nouveaux projets. Il est important de ne pas s'apitoyer sur son sort, du moins pas trop longtemps, de se relever et de continuer à avancer. Comme le dit le dicton, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Essayons de ne pas considérer notre échec ou difficulté comme une occasion manquée, mais plutôt comme une flèche nous indiquant un autre chemin possible. Qui sait, on démarrera peut-être un nouveau projet, plus en phase avec notre personnalité. Il est aussi temps d'arrêter de penser qu'on réussit seulement si on atteint la perfection. La perfection est une illusion. Parce qu'au bout du compte, la meilleure façon d'évaluer nos succès et nos échecs, c'est de prendre en compte ce qui importe pour nous, ce qui est aligné sur nos valeurs. Et ça, c'est à nous de le déterminer et à personne d'autre. C'était 6 façons de développer sa résilience, un texte de Nathalie Parent, paru le 29 novembre 2022 dans To Go.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Luc Mercure à la lecture, Jean-Sébastien Laliberté et Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.